Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time. Benoît Boutron, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes. Mes chers auditeurs, c'est bien évidemment Bartoli Time. Vous avez pris l'habitude désormais. Tous les dimanches soirs, nous revenons sur l'actualité sportive majeure qui a marqué le week-end avec des débats engagés, des invités exceptionnels et puis parce que j'y tiens, oui, toujours la petite touche d'humour qui nous caractérise. Ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir un président heureux, un président qui, je pense, a vécu une folle soirée riche en émotions parce que, oui, son club est arrivé après un exploit à Strasbourg à se maintenir en Ligue 1. Ça sera Jean-Michel Roussier, président du A, qui va nous raconter cette soirée et ce match absolument fabuleux pour son club. Et puis, puisque nous sommes à quelques jours de Roland-Garros, Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur de Serena Williams et entraîneur actuellement de Naomi Osaka, quadruple vainqueur en Grand Chelem, sera notre invité tennis pour la sortie de son livre Au potentiel est infini, les 10 clés pour prendre le contrôle de votre vie. Bref, nous parlons également de Formule 1 parce que oui, il y a eu un petit Grand Prix en Italie qui s'est déroulé. Nous vivrons la fin du match de Sinner contre Alcaraz à Rome. Un programme, comme d'habitude, extrêmement chargé, alléchant. Et c'est le moment où j'accueille Benoît Boutron. Comment vas-tu, Benoît?
Salut Marion, ravi de te retrouver. Écoute, tout va bien. On a vibré ce week-end avec la dernière journée de Ligue 1, on a hâte d'entendre Jean-Michel Roussier. Cette Panenka historique dans l'histoire du championnat, on va en parler avec lui bien évidemment. Et tu parlais de la finale de Rome, elle vient de se terminer, Eric Salio. Non, c'est pas terminé?
Bon, enfin, pas encore, c'est premier à 6.
Ah, bah, je crois que c'était terminé.
Ah, tu veux mes lunettes peut-être?
Bah,
non,
oui.
Il y a 7-6, 5-0.
Je t'ai vu lever les bras, je comprenais rien.
Non, parce qu'il est marqué un point incroyable. Donne-moi 3-4 minutes.
Je note, donc pour la saison prochaine, Benoît Boutron doit prendre des cours au tennis. Voilà, voilà. Je note, hein. Je prends des notes sur mon cahier, c'est bien écrit en rouge.
Bah, donne-nous le
Benoît
score,
apprend à compter 6, 5, le score au tennis.
Ah ouais, 5-0.
On part de loin, les amis.
C'est pas des sets de 5 joueurs.
Non, ce sont des seniors, ce ne sont pas des cadets.
On part de très très loin.
Et il peut inverser la tendance ou pas alors?
Oui, bien sûr, oui. Bah, mets ta maison dessus pour le.
Très bien. Bon, et bah, tu sais ce qu'on va faire. On va accueillir Jean-Michel Roussier et tu nous tiens informé de ce score. 7-6, 5-0 pour Alcaraz dans cette finale à Rome. C'est parti, on y va. C'était l'événement hier soir. Le Havre est allé chercher son maintien au bout du tour additionnel.
RMC, la une de Bartoli Time.
Et oui, c'était l'événement, Marion, avec ce duel, la lutte pour le maintien. 4 clubs étaient concernés, Nantes, Reims, Le Havre et Saint-Etienne. Les Havrais étaient en mauvaise posture au début de cette journée, ils étaient en place de deux barragistes. Saint-Etienne a vite été condamné avec sa défaite à domicile contre Toulouse. Reims a été dans la difficulté avec la défaite à Lille et puis donc ce temps additionnel qui a été favorable à cette équipe havraise. La victoire 3-2, Marion, qui permet au Havre de se maintenir pour une deuxième saison d'affilée. On va en parler avec le président Havrais qui est en direct avec nous, Jean-Michel Roussier, Marion.
Bonsoir président, merci d'être avec nous.
Bonsoir,
dans Bartoli Time.
Bonsoir président.
Bonsoir.
Alors je l'évoquais en préambule, je pense que vous avez dû vivre des émotions absolument extraordinaires parce que non seulement ça a été un match à de nombreux rebondissements, mais tout s'est joué dans le temps additionnel avec ce pénalty absolument incroyable. On va en reparler d'ailleurs de ce pénalty, mais j'aimerais d'abord revenir avec vous, si vous me permettez, sur vraiment votre émotion brute au moment du coup de sifflet final et cette victoire de votre club et donc le maintien assuré.
Ouais, un grand plaisir, vous pouvez l'imaginer, un grand bonheur. Même si le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été relégable au cours de cette soirée. Oui. Évidemment qu'on suivait les résultats des autres. Et que, voilà, on a toujours été jusqu'à cette dernière minute en situation de barrage. On était convaincus que de toute façon, c'est ce qui devait nous arriver. Et mieux, c'est affinité. Et il y a eu mieux. Il y a eu mieux le 96e. Mais, un grand soulagement et un grand bonheur. Voilà.
Alors nous allons raconter pour nos auditeurs la fin de ce match. Donc votre club est à deux partout, nous sommes dans le temps additionnel et puis après révision de la VAR, un pénalty vous est octroyé pour votre club. C'est Abdoulaye Touré qui va le tirer et là, ce moment suspendu dans le temps, ce geste fou, cette panenka sur un pénalty pour arracher le maintien. Est-ce que vous pensiez très honnêtement qu'il allait tenter ce geste ou au moment où il arme son geste vous dites non, surtout pas, ne fais pas ça et puis finalement c'est le soulagement après?
Non, j'étais sûr qu'il allait le faire. D'abord c'est la troisième qu'il fait cette année. Il a tiré 9 pénaltys, il en a mis 3 avec des panenka. Comme il avait tiré, on avait eu un pénalty en première mi-temps qu'il a tiré, celui-là plus normalement et plus franchement. Effectivement, quand j'ai vu qu'il prenait le ballon pour le mettre sur le point de pénalty, j'étais tout à fait convaincu qu'il allait le faire.
Vous étiez confiant.
J'étais confiant parce que il le fait. Voilà, il sait le faire et qu'à partir du moment où il prenait le ballon, voilà, 96e, et l'enjeu qu'il y avait derrière, c'est que lui, il était confiant aussi. Donc, puis probablement que jamais, Petrovic pouvait imaginer que dans ce contexte-là, Abdou ferait ça. Donc, je n'ai pas été vraiment surpris et voilà, il l'a fait comme il fallait le faire.
Alors, Président, 300 supporters havrais avaient fait le déplacement hier pour ce match à Strasbourg. On a vu aussi sur les réseaux sociaux les images passées de l'accueil lorsque les joueurs sont revenus au Havre. Absolument des scènes de liesse et des moments magiques de partage entre les joueurs et vos supporters. Est-ce que vous pensiez, très honnêtement, avant ce match, que le maintien direct était possible ou vous étiez déjà focalisé sur le barrage?
Bon, Marion, on savait qu'il était possible. C'était un élément. Vous savez, ça a été... Une semaine, ça nous était favorable. La semaine suivante, défavorable. Donc, voilà, on n'a jamais été... On était probablement, de tous les clubs susceptibles d'être relégués, celui qui était le plus préparé à ça, je pense. Parce que c'était, ça nous était inéluctablement réservé, cette situation. Donc, on y était préparé. Il n'y avait aucun doute que tout jouerait la dernière journée. On savait que le maintien direct était possible. Ça supposait qu'il fallait qu'on gagne et que dans le même temps, Reims perde. Ça, on ne maîtrisait pas le match à Lille. Mais il fallait déjà qu'on gagne le nôtre. On savait qu'en gagnant le nôtre, quoi qu'il arrive, on serait barragé.
Jean-Michel Roussier, invité exceptionnel de Bartoli Time sur RMC, le président havrais après le maintien décroché par le Havre hier soir, un scénario complètement fou. Jean-Michel, priorité au direct sur RMC parce que là on a une deuxième balle de match qui arrive pour Carlos Alcaraz face à Yannick Sinner au Masters 1000 de Rome.
Bon, donc c'est pour faire 6, hein, Benoît, c'est pour faire 6.
Ah, ça
si fait 6, c'est bon. Si ça fait 6, c'est fini.
Bon alors, on va pas à 10.
Voilà.
Okay. Non, pas encore.
Très bien.
7-6, 5-1, 40-30, effectivement, pour Carlos Alcaraz au Foro Italico de Rome, donc sur les terres de Yannick Sinner. Et là, Carlos Alcaraz qui a un penalty à transformer. Oh, il rate son smash, il boit son smash. Donc, deuxième balle de match gâchée. J'ai pas envie de dire sauvée par Sinner. Là, elle est vraiment. Il a manqué un peu de détente, hein, Benoît. Hein.
Ah ouais.
Je pense qu'un volleyeur aurait transformé.
Peut-être l'effet du scotch sur le nez. Il a trop respiré.
Peut-être. En tout cas, ça fait donc 40 ans. Dans bon. Ce jeu de service, la détente est bonne, mais le lob était beau. Faut reconnaître que le lob était beau. Donc deux balles de match sauvées par Yannick Sinner. Peut-être qu'il y aura une troisième à venir dans quelques secondes.
Profitons donc de la présence de Jean-Michel Roussier, le président havrais. Vous le disiez, président, la saison a été éprouvante. C'est le deuxième maintien consécutif en Ligue 1, malgré des moyens extrêmement limités. On a eu Mathieu Bodmer en début d'après-midi qui nous disait, malgré le fait qu'on soit maintenu, a priori les moyens seront toujours aussi limités pour la saison prochaine. Est-ce que ça peut durer comme ça, de réaliser, d'enchaîner les miracles saison après saison? C'est la question qu'on se pose, monsieur.
C'est compliqué. Les miracles, par définition, c'est à un moment donné, à l'instant T, ça peut se produire. Nous, ça fait 3 ans que ça se produit. Voilà, à un moment, la corde, elle cassera, c'est une certitude. Mais les moyens, on ne maîtrise pas tout, on en maîtrise une partie des moyens. Et malheureusement, la situation dans laquelle la Ligue nous a plongés, et collectivement, et nous, individuellement, fait que voilà, ça ne peut être que de plus en plus compliqué, c'est certain.
Ça s'est terminé au tennis, Marion Juste et Eric Salio, ça y est, c'est Alcaraz qui remporte ce Masters.
Avec une magnifique balle de match amortie, suivie d'une volée dans un court déserté par Yannick Sinner. 7-6, 6-1, il a gagné les 3 Masters 1000 sur terre. Carlos Alcaraz.
Il sera un tout petit peu favori pour Roland Garros, très légèrement.
Hein. Bon, si jamais Sinner veut stopper la série, il faudra qu'il fasse vite. Ce sera peut-être le dimanche 8 juin en finale de Roland. C'est tout le mal qu'on lui sait. Donc, sacre pour Caritos au Foro Italico de Rome.
Et début des qualifications pour Roland Garros demain. Et le début du tournoi, le tableau principal, dimanche prochain. Hein, voilà, donc Roland Garros arrive très vite sur RMC. Vous ne raterez rien. 19h13, on est donc en direct avec Jean-Michel Roussier, le président havrais, Marion.
Président, j'aimerais revenir justement sur le sportif. Et en particulier, l'une des clés de votre maintien, c'est d'avoir maintenu votre confiance envers Didier Digard, l'entraîneur, du début jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Didier sera avec vous également la saison prochaine?
Oh oui, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus, mais oui, la clé, c'est justement d'avoir considéré, moi je considérais dès le début qu'il était l'homme de la situation. Ça a été très chaud pour lui. Quand je dis chaud pour lui, c'est la pression du public, des médias, les pressions qu'on a reçues le concernant. Mais voilà, pour ce qui me concerne, il était hors de question de changer. Je l'avais dit dès le mois de janvier, quand ça a été les moments les plus chauds. Et finalement, c'est un des trucs dont je suis le plus fier, parce que quand je vois le classement final, les trois qui sont derrière nous, ils ont changé de coach dans la saison. Nous pas. Voilà, donc deuxième partie de votre question, Marion, oui, il y aura de toute façon un an de contrat. Ce dont on va discuter, c'est d'éventuelles prolongations dans les prochains jours. Mais oui, j'ai aucun doute qu'il reste chez nous la saison prochaine.
Alors là, j'imagine que vous allez savourer, président, parce que c'est un maintien en Ligue 1 tout de même pour un club comme Le Havre. C'est pas anodin, c'est jamais anodin d'ailleurs.
Non.
Mais comment s'annonce l'été ? Il y a toujours cette incertitude autour des droits télé. On en parlera juste après. Mais comment vous, en tant que président, vous allez faire en sorte que votre équipe se renforce malgré tout ? Est-ce qu'il va falloir être encore plus ingénieux ? Est-ce que Mathieu doit être encore plus fort que les saisons précédentes pour composer un effectif de qualité ? Comment ça va s'organiser au Havre ?
Il faudra être ingénieux. Alors, vous dites les droits télé, rien n'est résolu, mais si, tout est résolu.
Je veux dire,
on est dans le lac complet. On va encore baisser, pour ce qui nous concerne, probablement au moins la moitié de la petite obole qu'on a eue l'année dernière, enfin cette saison-ci. Donc, c'est là-dessus, malheureusement, c'est un constat, c'est une réalité. On n'a pas de miracle à attendre, donc oui, il va falloir être beaucoup plus ingénieux, encore plus ingénieux. C'est là que je dis que la répétition des miracles, à un moment, elle a ses limites. Et que on peut être ingénieux, mais on ne peut pas lutter à armes tellement inégales. Donc, et là, on a trop lutté, au moins cette année encore, à armes trop inégales avec les autres. Donc, je n'ai pas la réponse, mais on est dessus, on s'y prépare.
Ça nous inquiète d'entendre votre discours, parce qu'on se dit que ça va être très compliqué pour Le Havre, quoi qu'il arrive, la saison prochaine. Forcément, il y a un principe de réalité.
Je confirme ça. Voilà, il y a le principe de réalité. On va pas se masquer les choses. L'année dernière, en Ligue 1, on est arrivé à 18,5 millions de droits télé. Ouais. Cette année, on est en dessous de 9 et on sera en dessous de 5 la saison prochaine.
D'ailleurs, sur cette question, président, plus globalement, vous vous êtes toujours opposé d'ailleurs au président de la LFP, Vincent Labrune, sur cette fameuse gestion des droits télé. Vous l'avez dit, ça commence, entre guillemets, à être résolu, même si
le fiasco est acté, et désormais on
est très inquiet parce que la Ligue devrait lancer sa propre chaîne. Est-ce que, d'après vous, à moyen terme, alors ça sera délicat pour vous dès la saison prochaine, mais c'est une bonne option pour l'avenir des clubs ou c'est une catastrophe, quoi qu'il arrive ?
Des chaînes, j'en ai monté, la dernière en date pour le monde de Mediapro, donc je sais ce que ça représente.
Ouais.
Je sais ce que ça suppose comme marketing pour faire des abonnements. Et donc, je suis extrêmement inquiet. Voilà. C'est la bonne volonté du distributeur, c'est la bonne volonté du groupe Canal de distribuer. Donc, on est soumis à la bonne volonté des uns et des autres. Et je suis, y a aucune raison d'être optimiste.
On est sûr, en revanche, qu'un club comme Le Havre ne laissera pas la clé sous la porte ? Vous allez maintenir, quoi qu'il arrive, Le Havre en première division et vous vous en sortirez financièrement ?
Oui. Enfin, on s'en sortira avec les moyens dont on peut disposer. On s'en sortira sportivement. Je ne pense pas qu'on sera rétrogradé administrativement. Voilà. Si c'est ça votre question.
C'est ça ma question. Voilà, c'est ça.
Voilà. Administrativement, je ne pense pas du tout. Mais à un moment, sportivement, on sait que c'est compliqué.
Non, mais ça pose un problème de fond et plus global qui est finalement sur l'attractivité de la Ligue 1. Alors ma question, président, ça sera ma dernière et je vous laisserai profiter ensuite de votre réussite. Mais est-ce que vous pensez que finalement l'épopée du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions peut redonner une attractivité à la Ligue 1 dans sa globalité et les diffuseurs se dire, effectivement, on a une chaîne média à diffuser et si jamais on arrive à obtenir que l'IPTV soit un petit peu moins présente, on peut arriver à générer des abonnements moins chers. Ou est-ce que vous pensez que ça n'a aucune incidence et ça n'aura aucune incidence sur l'attractivité de la Ligue 1 ?
Alors, ce que vous dites, qu'il puisse y avoir, et par la loi, et par les moyens mis en œuvre, une guerre sur l'IPTV, c'est que souhaitable. Le résultat direct du Paris Saint-Germain, entre vous et moi, je sais que c'est pas que entre vous et moi quand je dis ça.
On est un petit peu écoutés.
Il y a des millions d'auditeurs. Voilà,
mon objectif n'est pas de faire de peine à qui que ce soit, mais non, j'y crois pas un instant. Il n'y a pas de ruissellement, c'est une légende, la notion du ruissellement. Ça n'existe pas, le ruissellement. Paris un club qui a des résultats magnifiques, il n'y a rien à dire là-dessus. Je leur souhaite gagner la Ligue des Champions, mais ça ne ruissellera sur personne à part sur eux. Voilà.
Non, mais c'est très intéressant d'avoir votre point de vue, parce qu'effectivement, on a rarement le point de vue d'un président de club qui est dans la gestion au quotidien avec des moyens qui est limité. Donc c'est intéressant justement d'avoir votre point de vue, c'est avec vous qui avez des choses concrètes à gérer.
Demandez quand vous aurez Nasser, si vous l'avez, s'il n'est pas à lâcher un peu sur les droits internationaux au bénéfice de l'ensemble des clubs, vous aurez la réponse.
Eh ben, la question sera posée. Voilà. Oui. Si jamais il vient dans Bartoli Time d'ici la fin de saison. Merci Jean-Michel Roussier d'être venu ce soir dans Bartoli Time.
Salut Marion. Oui.
Au merci bon beaucoup, président.
On vous laisse profiter
et
quand
félicitations,
même.
Félicitations, hein. Profitez bien.
Matin, président. Hein.
Merci.
Au revoir,
profitez
bonne soirée.
Bien. Bravo.
19h20 sur RMC. On rappelle donc qu'en tennis, c'est Carlos Alcaraz qui vient de remporter le Masters 1000 de Rome. Victoire en 2-7 face à Yannick Sinner. Début de Roland-Garros dimanche prochain. Et puis Marion,
en quelques mots,
tu voulais parler de ton coup de cœur de la journée d'hier. Vas-y,
en 30 secondes, un coup de cœur qui est effectivement la rentrée de Steve Mandanda, qui est absolument une idole absolue à Marseille, au Vélodrome, qui a été ovationné pendant plus d'une minute avec tout le stade qui était debout. Et je pense que ça lui a fait vraiment chaud au cœur et que c'était un moment extrêmement émouvant. Et je salue Habib Bey pour avoir fait ce geste, parce que pas forcément tous les entraîneurs y auraient pensé et l'auraient fait. Donc ça a été un grand moment pour Steve, pour le public marseillais, et je salue vraiment ce geste d'Habib Bey.
Et dans un instant, on continue de parler de tennis avec un invité exceptionnel, Patrick Mouratoglou, l'ancien coach de Serena Williams, qui entraîne aujourd'hui Naomi Osaka. Son regard sur le tennis, justement sur le cas Yannick Sinner, sur Arthur Fils, on va l'interroger sur tous ces sujets. Bartoli Time jusqu'à 20h ce soir sur RMC, ne bougez pas.
RMC Bartoli Time, Benoît Boutron,
Marion Bartoli. 19h25, vous êtes bien dans Bartoli Time sur RMC. Et donc, avant que Benoît passe dans le journal moyen d'Adrien Aigouin, ouais, pour sa boulette, je tiens à lui dire que dans le livre de Patrick Mouratoglou, que nous allons interviewer dans quelques minutes, Votre potentiel est infini, il y a une règle qui, je pense, t'intéresserait.
Ah ouais ?
Une clé. Connaître les règles du jeu. Je pense qu'elle est faite pour toi, Benoît, j'ai envie de te dire. Donc, s'il te plaît, va au chapitre 4, connaître les règles du jeu et lis. Tu vois, comme ça, au moins, tu te connaîtras.
Et je t'ai induit en erreur. Je vois Eric Salio qui lève les bras. Je vois Carlos Alcaraz qui serre le poing. Je lui dis, ça y est, c'est terminé.
Et alors, une autre règle toujours très important, assumer les résultats. Assumer la responsabilité des résultats obtenus. Benoît, c'est très important.
Pas faux, ça.
Je te le dis. Mets-toi la lecture.
Ça, c'est du coaching mental.
Voilà. Nous allons en parler avec Patrick Mouratoglou tout de suite.
Oui, et je préviens tous les fans de F1 que dans un quart d'heure, on aura un débat passionnant parce que l'avis est pertinent, celui de Marion. Marion pense que Max Verstappen, qui vient de remporter le Grand Prix d'Émilie-Romagne, ne pourra rien faire face à la domination de McLaren cette saison.
Rien.
Je suis persuadé que Jean-Luc Roy a un avis contraire, donc ça va être passionnant. On vous attend au 32-16 pour en débattre avec nous.
Et parce que quand la saison foot est terminée, il faut bien que je m'écharpe avec quelqu'un, donc c'est Jean-Luc
voilà,
ce soir.
Voilà, c'est ça. Faut toujours finir sur une dispute, donc ce soir, ça sera Jean-Luc. C'est ça. Allez, on y va. On reparle tennis avec Patrick Mouratoglou, qui est notre invité.
RMC Bartoli à la folie.
Patrick Mouratoglou, l'ancien coach de Serena Williams, aujourd'hui entraîneur de Naomi Osaka, et dans Bartoli Time ce soir sur RMC, Marion.
Absolument, Patrick, un grand ami depuis 25 ans, il me semble. Je crois que tu m'as connu, j'avais 14 ou 15 ans.
Ah oui,
j'en ai 40 aujourd'hui, donc oui.
Championnat de France, moins de 14.
Exactement. On va ressortir les grands souvenirs. Alors, Patrick, on est dans ton académie, ici, la Mouratoglou Tennis Academy, qui existe depuis longtemps. Tu vas nous en parler, d'ailleurs, ce que tu as développé, ce que tu as rêvé à faire. Coco Gauff est passé par ton académie, Stefanos Tsitsipas est passé par ton académie, Holger Rune également, on va parler de tout ça. On va parler aussi de ton livre, Votre potentiel est infini. Alors, ce qui nous intéresse énormément, bien évidemment, c'est cette préface de Florent Manaudou, parce que quand j'ai découvert ton livre, ça m'a forcément un petit peu surpris qu'un nageur fasse la préface d'un entraîneur de tennis. Mais ce que tu vas nous décrire, justement, c'est que, en fait, le coaching va bien au-delà d'un sport défini. Donc, cette partie-là, j'ai vraiment envie de l'explorer avec toi. Et puis aussi, l'autre partie, parce qu'on ne fait pas un Bartoli Time sans un tout petit peu d'humour. C'est donc, comme Benoît Boutron a un potentiel infini, mais un petit peu sous-exploité, on va essayer, à la fin de cette interview, de lui dire finalement dans quelle direction il doit se lancer pour
donnez-moi
exploiter
clés.
Son potentiel.
Donnez-moi les clés, s'il vous plaît.
Mais ça sera à la fin. Donc Patrick, première question, qu'est-ce que tu as le plus appris dans le coaching que tu as essayé de transmettre à Florent Manaudou en préparation de ces Jeux Olympiques et que tu as finalement découvert à travers lui une un sport différent, mais qui est en commun par rapport au tennis.
Pour commencer, quand j'ai démarré ce travail de coach, je n'y connaissais rien. Ma première démarche, ça a été d'essayer de comprendre l'athlète, de comprendre comment il performait pas aussi, et petit à petit de découvrir quelles sont les clés pour qu'il soit en mesure le jour J d'être le plus performant possible. Et les jours J au tennis, il y en a beaucoup.
Oui.
Il y en a quasiment toutes les semaines.
Absolument.
Et puis ensuite, développer la personne qu'il est. Parce qu'en fait, dans un joueur de tennis, dans un athlète, il y a le hardware et le software. Le hardware, c'est quoi ? C'est la technique, la tactique, le physique. Et puis le software, c'est la personne qu'il y a derrière. En fait, beaucoup d'entraîneurs s'occupent que du hardware. Ils se disent pas que, en fait, c'est pas des robots qui jouent au tennis, sinon ce serait beaucoup trop simple. C'est des gens qui ont des états d'âme, qui ont des peurs, qui ont des blocages. Et si on n'agit pas sur le software également, bah, finalement, on n'exploite pas du tout le potentiel des gens. Et en fait, petit à petit, donc, pour répondre à ta question, je suis allé à chaque fois à la découverte des softwares des athlètes avec lesquels j'ai travaillé. Et une grande partie de mon travail, pas tout évidemment, je m'occupe du hardware aussi, ça a été de m'assurer que, petit à petit, on lève les blocages. Je les ai aidés à développer une confiance en eux, qui les ont aidés également à faire face à leurs peurs. Et je me suis dit un jour, et c'est pour ça que j'ai des athlètes dans d'autres sports qui sont venus me voir, et des chefs d'entreprise aussi, que ce savoir-faire pouvait être
transposable
dans tous les domaines.
Ben Patrick, c'est la question qu'on se pose, effectivement, Marion vous en a parlé, mais vous avez une approche du haut niveau, vous avez encadré beaucoup de championnes encore aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, c'est entre tous les sportifs de haut niveau, pour atteindre l'excellence, c'est mentalement que ça se passe, c'est là que ça fait que la différence se fait finalement ?
Alors, c'est vrai le jour J, comme je le dis, évidemment, parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'état de performance va avoir beaucoup de difficultés à exprimer son talent, ses qualités, mais c'est vrai dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on côtoie des joueurs de très très haut niveau, ils ont une mentalité, une approche qui est différente. En fait, on se développe par rapport à la vision qu'on a de soi et de ses capacités et la manière dont on procède.
Mmh. Oui.
C'est peut-être ça. Émotionnellement, intellectuellement. D'ailleurs, lorsque Djokovic est arrivé, Djokovic est un exemple exceptionnel de ça, parce que il est arrivé à une époque où Federer, Nadal gagnaient absolument tout et la totalité des joueurs top 10, parce que je leur parlais à tous, me disaient que c'était impossible de gagner un grand chelem. Ce jeune de 19 ans arrive et lui dit, je vais les battre. Et tout le monde a dit, il s'est fait un peu casser dans les médias, les gens disaient, le mec est prétentieux, etc. Et ce à quoi il a répondu, d'ailleurs, je suis pas prétentieux, j'ai juste une énorme confiance en moi. Quand on regarde son tennis à 19 ans, mais pas un instant, on peut penser qu'il devienne qui il va devenir. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si on est vraiment observateur, je veux dire, c'est un joueur qui, par rapport aux deux autres, et c'est terrible de dire ça, mais il est médiocre même. D'ailleurs, il fait tout très bien, mais il a aucun coup vraiment très fort. Il y a rien qui émane de son tennis qui peut laisser penser aux gens qu'il pourrait devenir, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il est devenu. En revanche, mentalement, sa confiance en lui, son ambition, son attention à tous les détails ont fait qu'il est devenu le plus grand de tous.
Patrick Mouratoglou, invité exceptionnel de Bartoli Time ce soir sur RMC. C'est un thème que je suis obligé d'aborder avec vous, Patrick, parce que on s'inquiète beaucoup, en tant que fan de sport et fan de tennis, de l'état du tennis féminin français actuel. Comment vous expliquez, vous, qui avez un regard d'expert, la crise que traverse actuellement le tennis féminin français ? Est-ce que ça part de la base ? C'est un avis qui a été défendu par Marion il y a quelques jours sur RMC. Est-ce qu'il faut tout revoir dans la construction des joueuses françaises dans le tennis, à votre avis ?
Alors, je veux répondre par mon livre. C'est une des clés, c'est la remise en question. C'est une des clés de la réussite. La capacité à se dire, j'ai échoué, ce qui n'est pas grave en soi, parce qu'on a tous échoué. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la non-remise en question. Le problème, c'est de chercher des excuses ou montrer quelqu'un d'autre du doigt quand c'est nous le responsable. Et puis deuxièmement, quand on assume ses responsabilités, quand on assume ses échecs, ben finalement, ça nous donne beaucoup de pouvoir.
Mais là, on parle des joueuses ou de la structure, Patrick ?
La structure.
On parle de la structure, puisque en fait...
Les entraîneurs.
La fédération estime que c'est leur responsabilité de former les champions. Donc à ce moment-là, il faut assumer les résultats. Les résultats dans le tennis féminin, le tennis masculin sont corrects. Dans le tennis féminin, c'est un échec cuisant. Qui date pas d'hier, hein. C'est la génération précédente qu'on n'a pas su faire éclore. Et donc il faut analyser les raisons. Est-ce que moi je les connais ? Non, je les connais pas. Je cherche pas du tout à me défausser et à éviter la réponse. Mais Je ne sais pas ce qui est fait à la fédération. Je n'y vis pas, je n'y suis jamais. Je ne vois pas les entraîneurs travailler. Donc, je ne vois pas les décisions qui sont prises. Donc, je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que il y a des très, très, très bons formateurs en France. Il y en a énormément. Est-ce que ce sont ceux qui sont en charge? Je ne sais pas.
En voilà.
Les messages sont passés.
Voilà. Okay. Connaissant un peu Patrick, je lis entre les lignes.
Si on parle de confiance et de mental, Patrick Mouratoglou, autre exemple qu'on a tout en haut du tennis mondial, c'est Novak Djokovic. Hein, vous en parliez il y a quelques minutes. Vous disiez, c'est pas quelqu'un qui avait un coup très fort comme les autres GOAT avec qui il a partagé la tête d'affiche pendant des dizaines d'années. En revanche, il a un mental d'acier. Et là, on se demande un peu ce qui se passe pour Djoko, parce qu'il vient de se séparer d'Andy Murray. Voilà, cette collaboration n'aura pas duré longtemps, finalement. On sent qu'il est en train de se chercher. On se demande dans quel état il va arriver à Roland-Garros. Est-ce que ça signifie qu'il ne veut pas accepter sa fin de carrière, ou est-ce qu'il y a encore des leviers à aller chercher pour un tel champion, pour continuer et essayer d'aller atteindre le but de sa vie et gagner un 100e titre en carrière et aller chercher ce fameux grand chelem qui lui manque pour devenir le GOAT, homme et femme confondus?
Je pense qu'il vit une période très difficile sur le plan mental, parce que il avait un combat dans sa vie, c'était de devenir le plus grand des trois. Il a vécu à l'époque où il jouait avec les deux plus grands joueurs de l'histoire, c'était déjà acquis, et lui n'était encore rien. Le combat de sa vie est terminé, il a gagné le combat de sa vie, c'est ça qu'il vit. Et arriver à retrouver...
Un
semblant de motivation. Il joue pour quoi aujourd'hui? Quelque part, sa vie professionnelle n'a plus de sens. Et tant qu'il n'aura pas retrouvé un sens à sa vie professionnelle, ben je pense qu'il sera en difficulté. Et tant qu'il n'aura pas quelque chose qui va vraiment le faire rêver, et en plus, une adversité forte. Alors, l'adversité est liée en termes de joueurs. Hein. Sinner, Alcaraz, c'est une sacrée adversité, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Je pense qu'il lui pose des problèmes à tous les niveaux, et notamment Sinner, qui, à mon avis, lui pose encore plus de problèmes qu'Alcaraz. Ouais. Parce que Sinner, c'est un Djokovic 2.0. Quoi. Il fait tout comme Djokovic, en beaucoup mieux, avec en plus une vitesse de balle largement supérieure. Il fait pas de faute, il joue à une vitesse incroyable, et il a la capacité à venir au contact, à prendre la balle tôt, qui est hors norme. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est le plus fort, sans aucun doute.
Alors justement, on va revenir sur le retour de Yannick Sinner. Ça a été le retour qui a le plus agité la planète tennis, puisqu'il a eu 3 mois de suspension dû à son contrôle positif au closed table, son double contrôle positif au closed table pour 1 milliard de grammes. Tu parles aussi dans ton livre du cas de dopage de Simona Halep. J'aimerais avoir ton avis sur à la fois le cas Sinner dans sa globalité, en particulier sur la partie des contrôles positifs pour lui, et aussi son retour, puisque il est à Rome en ce moment et qu'il est en train d'aligner performance après performance, notamment un 6-0 6-1 contre Casper Ruud, qui vient de gagner quand même le Master 1000 de Madrid. Donc là, en termes, si on s'inquiétait au niveau de son retour sur le plan tennistique, je crois qu'on est assez rassuré.
Alors, c'est un vaste sujet. Je vais essayer de pas être trop long. J'ai vécu ça avec une joueuse, donc Simona Halep, que j'entraînais au moment où elle a été contrôlée positive pour un nanogramme. Donc, c'est un cas exactement similaire. Ça pose plein de questions. Et en fait, si le cas de Yannick Sinner a été très controversé, c'est parce qu'il a eu, à l'évidence, un traitement de faveur. Je dis pas qu'il a essayé de se doper, je le pense pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui est pas normal et en quoi le cas Sinner a été controversé à juste titre à mon sens? D'abord, ce qui est pas normal, c'est que comme tu l'as dit Marion très justement, on considère qu'un cap, quelqu'un qui a un milliardième de gramme de quelque chose qui est interdit dans son organisme est contrôlé positif. Pourquoi c'est pas normal? Pas parce que n'importe qui peut avoir ça. N'importe qui. En quoi est-ce normal que quelqu'un qui se fasse masser par une personne qui prend un médicament pour sa santé, qui est sur la liste, se retrouve contrôlé positif, avec toutes les conséquences que ça a, parce qu'on ne parle pas des conséquences pour les athlètes. Son image est ruinée à vie, parce qu'il aura toujours l'étiquette de dopé sur son dos. Ça, on ne peut pas dire le contraire, à partir du moment où c'est révélé au grand public. Il perd tous ses contrats. Il est interdit de jouer pendant une période qui est souvent extrêmement longue. Dans le cas de Simona, ça a duré 2 ans. Donc sa carrière a été foutue. Je trouve que le cas Sinner a été très bien géré. D'abord, on n'a pas dit qu'il avait été contrôlé positif jusqu'à être sûr qu'il s'était dopé. Si ce traitement était appliqué à tout le monde, c'est-à-dire ne révéler publiquement un contrôle positif que quand on est sûr que la personne s'est dopée et pas si la personne est victime de contamination, je trouve ça normal.
Alors Patrick, Roland Garros arrive.
Je n'ai pas parlé de... Je ne sais pas si tu veux que j'en parle, mais de Sinner...
Son niveau de jeu.
Au niveau de jeu, exceptionnel. Ruud sur terre battue, c'est quand même une sacrée référence. En plus, il vient de gagner Madrid. Il rejoue vraiment très très bien. il n'a pas existé un instant. Il était pris tout le temps par un joueur qui jouait juste 10 fois trop vite pour lui.
Patrick, nous sommes à quelques jours de Roland-Garros où tu vas être avec Naomi Osaka qui est donc quadruple vainqueur en Grand Chelem. Elle n'a pas gagné sur terre battue, mais elle a gagné 2 fois l'Open d'Australie, 2 fois l'US Open. Avant Roland-Garros, la question qu'on se pose tous, bien évidemment, c'est où iront les Français et à quel point on peut éventuellement s'extasier devant un parcours ou non. Donc, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses aussi d'Arthur Fils, qui est le Français actuellement qui performe le plus de manière régulière, que ça soit sur terrain en dur ou sur terre battue. Est-ce que tu penses ça va être un grand Roland-Garros, au moins pour le tennis masculin français?
Pour le tennis masculin, il y a plusieurs joueurs qui jouent bien. Il y en a certains qui jouent bien sur terre battue, dont Arthur Fils, qui joue bien sur toutes les surfaces, mais qui est très à l'aise sur terre battue, ce qui n'est pas le cas de Giovanni, par exemple, qui est plus à l'aise sur dur, encore plus indoor.
Ou Hugo Humbert.
Ou Hugo Humbert, exact. Mais Arthur, oui, après, il va avoir beaucoup de pression. Ça va être nouveau pour lui. Il n'a jamais eu cette pression-là. On va voir comment il va la gérer. C'est pour moi le gros point d'interrogation. En termes de niveau de jeu, c'est un joueur qui peut atteindre la deuxième semaine sans aucun problème, qui peut même faire un quart ou une demi. Aller jusqu'au bout, je pense que pour le moment, face à un Alcaraz ou un Sinner, je ne sais pas s'il est capable d'aller au bout. En tout cas, d'aller loin, oui. Mais on va voir comment il va gérer cette nouvelle pression. C'est un premier vrai test pour lui d'être à Roland-Garros. Le grand espoir français, le grand espoir du tournoi, sous le feu de tous les projecteurs, et on va voir comment il va le gérer.
Alors Patrick, j'étais obligée de terminer cette interview, cet entretien, par un questionnaire sur toi, parce que là on s'est concentré beaucoup sur tes réponses autour du tennis, mais j'aimerais me concentrer sur toi et sur l'homme. Donc on va faire un questionnaire en 10 moments clés, pour reprendre le thème des 10 clés de ton livre. Première question, la clé que tu utilises le plus au quotidien?
Les petites victoires.
La clé que tu as le plus utilisée avec Serena?
C'est dur, tes questions.
Je prépare mes interviews.
La communication avec elle.
En dehors de Serena, le joueur ou la joueuse clé qui t'a le plus marqué?
Marcos Baghdatis.
La clé numéro 10 de ton livre est Crée votre motivation. Quelle est ta motivation aujourd'hui, Patrick?
Je suis en mode Djokovic. Je la recherche.
Le moment clé où tu as le plus appris?
Les plus grosses défaites, les défaites qui m'ont mis dans un mauvais état émotionnel.
La balle de match la plus clé de ta carrière d'entraîneur?
Première victoire de Serena à Roland-Garros, après 10 ans, ça faisait 10 ans qu'elle essayait de gagner Roland-Garros.
Contre Maria Sharapova,
contre
mémoire.
Sharapova, sur Anaïs en plus.
Quel est le moment où tu as été le plus ému positivement lors d'un match? Et donc, tu n'as pas le droit de redire la balle de match de Serena, parce que je sens qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mais un autre.
La défaite en finale de Roland-Garros contre Muguruza, le moment où j'ai parlé à Serena avant le match.
La qualité clé pour être un champion?
La qualité indispensable, c'est l'ambition. La confiance en soi. L'exigence, bon, il faut ces trois-là au moins.
L'objectif clé que tu souhaites encore réaliser?
À court terme, je veux absolument que Naomi regagne des grands chelems, parce que ça commence à durer, ça fait un petit moment maintenant qu'elle n'en a pas gagné, au moins un. À plus long terme, je vous dis, je suis en mode Djokovic, donc
tu recherches.
Pas facile.
La dernière question sera sur l'homme. Le moment le plus clé de ta vie jusqu'à maintenant?
Écoute, je vais te répondre comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne réponse ou pas, mais s'il n'y a pas de bonne réponse... Il y a quand même une chose dont je suis très fier, c'est de transformer l'adolescent de 16 ans qui n'avait absolument aucune chance de faire quoi que ce soit dans sa vie parce que il en était bien incapable, en le jeune homme de 26 ans qui était prêt à bouffer la vie et à réaliser tous ses rêves.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Patrick.
Merci pour ton temps. Et donc, courez acheter en librairie, bien évidemment, le livre de Patrick. Votre potentiel est infini, les 10 clés pour prendre le contrôle de votre vie.
19h42 sur RMC. Un grand merci à Patrick Mouratoglou qui a été notre invité. La version longue de Steve Nervieux est à retrouver sur la chaîne podcast de Bartoli Time, à Marion d'ailleurs.
Oui, un interview de 44 minutes qui est passionnant. Je vous invite très fortement à aller l'écouter. Et donc, Benoît, s'il te plaît, définis ton objectif. Je sens que c'est la clé qui te manque.
Ouais, je vais y réfléchir. C'est de casser toutes les audiences avec Bartoli Time. On est bien parti, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers.
Voilà, j'aime.
Quand c'est clair et défini, ça arrive. C'est ça, c'est ce que j'ai compris.
Exactement.
Voilà. Dans un instant, on parle de Formule 1. La voix de la F1 sur RMC avec nous, Jean-Luc Roy. Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Marion pense que malgré tout son talent, il ne pourra pas rivaliser cette saison avec les McLaren. Jean-Luc Roy n'est pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Bartoli Time. Benoît Boutron.
Marion Bartoli.
19h45, vous êtes bien dans Bartoli Time, c'est la dernière ligne droite. Et donc, je vous l'ai dit, comme j'aime bien finir cette émission, toujours avec une petite dispute, parce que ça fait toujours un petit peu de bien d'avoir une petite dispute. Et comme effectivement, je ne peux plus me disputer avec Jean-Louis Tour, je suis orpheline de Jean-Louis. J'ai décidé de me disputer avec Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
On passe de Jean-Louis à Jean-Luc, c'est
voilà.
ça.
Voilà, je reste dans les gens.
On peut l'accueillir d'ailleurs. Il est là, Jean-Luc, pour la voix de la F1 sur RMC. Salut Jean-Luc.
Salut Marion, salut Benoît. Bon. On va bienvenue. Pas se disputer, on va débattre.
Non,
on va débattre.
Voilà, on va débattre gentiment.
Jean-Luc, bienvenue pour l'embrouille du dimanche soir. Voilà, on t'accueille avec plaisir. Je précise juste que dans un quart d'heure, à partir de 20h, After Live et spécial rugby, la 24e journée du top 14 qui se poursuit, ce match entre La Rochelle et Montpellier, drivé par Nicolas Villas. Mais on y va donc sur la F1 parce que Marion n'est pas.
RMC. Bartoli Paston.
Victoire facile de Max Verstappen cet après-midi au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Septième manche du championnat du monde. Oh, il a pas souffert. Il a pris la tête dès le début.
Arrête tes bêtises. Il a eu deux arrêts gratuits. Bon, bref, on va en discuter.
Il a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, meilleur pilote Ferrari, termine quatrième. Isaac Hadjar, le meilleur français, lui prend la neuvième place. On rappelle, Jean-Luc, depuis le début de saison, deux victoires pour Verstappen, tout le reste pour McLaren, quatre pour Piastri, une pour Norris. Et le classement des pilotes, c'est Piastri en tête avec 13 points d'avance sur Norris, 22 points d'avance sur Verstappen. On t'a convoqué, Jean-Luc, parce que Marion, c'est ton thème de Bartoli Paston. Tu penses que malgré tout son talent, Verstappen ne pourra pas lutter au classement des pilotes face à ses pilotes McLaren.
Totalement. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne remets en aucun cas en cause le talent de Max Verstappen, qui est un immense champion. Vraiment qu'on mette les choses au point très clairement. Mais au vu des performances des deux voitures, qui sont vraiment, alors il y a vraiment un gap qui est important, et tu l'as rappelé, et ça me paraît très important de le rappeler, c'est que pour l'instant, il y a 7 grands prix qui se sont déroulés. Max Verstappen s'est imposé au Japon et aujourd'hui sur le circuit d'Émilie-Romagne. Toutes les autres victoires ont été pour Piastri et Norris. Et aujourd'hui, ce qui a vraiment handicapé effectivement McLaren, c'est à la fois leur stratégie, puisque Piastri est parti poleman, qu'ils ont tenté l'undercut sur Verstappen en s'arrêtant très tôt, mais la stratégie employée par McLaren n'était pas la bonne. Ajouté à ça une exécution des arrêts qui a été défaillante. Et en plus, Max Verstappen qui a pu bénéficier effectivement de deux arrêts gratuits, puisqu'il y a eu la safety car virtuelle due à l'immobilisation d'Esteban Ocon dans l'herbe, et ensuite la vraie voiture de sécurité cette fois-ci pour la même immobilisation au même endroit pour Andrea Kimi Antonelli. Effectivement, Verstappen est arrivé par son talent et par ses qualités de pilotage à remporter cette victoire. Mais je ne crois pas que sur la saison, dans sa totalité, sa globalité, il puisse arriver à réitérer de tels exploits. Et je pense que McLaren, en ayant une voiture aussi performante, va arriver, malheureusement pour Max Verstappen, à le devancer à de très nombreuses reprises.
C'est le problème, Jean-Luc, c'est que nous, on préfère toujours quand c'est le meilleur qui gagne. Et là, c'est pas forcément le cas. Quoi.
Alors,
dans le sport, rarement le meilleur gagne.
Ouais. Alors, si, quand même, ça arrive, heureusement, Marion.
En mécanique, oui.
Tu en as l'illustration. Non. Alors, moi, je vais répondre point par point, quasiment. Alors, déjà, le déroulement du Grand Prix, écoute, moi, à l'inverse, je te dirais que quand on est en tête et qu'on domine et qu'on a. Alors, on va pas parler du virtuel safety car qui est censé maintenir les écarts entre les pilotes, ce qui a été le cas. De mémoire, c'était entre 17 et 18 secondes à ce moment-là. Mais après, le safety car, ça annihile totalement les écarts. Donc, ça relance la machine. Donc, ça permet aux autres de se retrouver juste derrière et après, à eux d'être meilleurs. Et là, Verstappen, comme à son habitude, il a plus de métier, il a plus de talent. Et puis, je pense que toutes les évolutions qui ont été apportées sur la Red Bull, et c'est là que si tu me permets, on est là pour ça, m'inscris en faux, c'est que la Red Bull a compensé déjà une partie de son retard, je dis bien une partie, sur les McLaren, ce qui permet à Verstappen, il a raté la pole et il était vert de l'avoir raté, justement. Bon, ça, c'est la vie. Il en a manqué un tout petit peu. En revanche, en course, il fait un grand prix pour moi. Absolument formidable. Alors, on sait bien que ça se joue souvent au départ en Formule 1. 553 mètres à parcourir, c'est exactement ça, à bride abattue.
Le déplacement absolument idéal, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu écoutes ces messages radio sur les grands prix précédents, alors je veux bien que tout était réglé en une semaine et sur un grand prix, mais les défauts techniques qu'avait cette Red Bull, qui était vraiment mal née au début de la saison, Verstappen s'en est plus que plein. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu d'exagération due à la frustration, mais il y avait quand même des moments donnés où il expliquait que sa voiture, il n'arrivait pas à la faire freiner. Donc moi, je veux bien qu'il soit arrivé absolument à tout régler comme ça en un grand prix, mais ça me paraît quand même compliqué d'arriver à gérer une saison entière avec autant de problèmes techniques, ce qui était de loin pas le cas les saisons précédentes, où ils archi-dominaient avec leur voiture.
Compenser une partie du retard, ça n'est pas fait. Et puis tu sais que les grands prix de Formule 1, et c'est tout l'intérêt du championnat, c'est que c'est des tracés totalement différents.
Exactement.
Dans une semaine, même pas, on a Monaco.
Eh oui.
Je ne vous redécris pas Monaco et ce que ça représente comme engagement pour les pilotes personnels et
Si Verstappen parvient à décrocher une pole ou en tout cas à filer devant, ben là aussi il va falloir le passer après. Et on a eu tellement d'exemples dans le passé où effectivement quelqu'un qui est devant parvient à y rester avec une voiture inférieure de surcroît.
Bien sûr.
Bon, alors on a ça. Et après, je rappelle qu'à Barcelone, il y a quand même une échéance très importante au plan technique. C'est que enfin, j'ose dire enfin, la FIA va appliquer son propre règlement. C'est bien, on aura mis 9 grands prix, mais bon. Donc pour vérifier justement la flexibilité, on va appeler ça comme ça, on va être gentil, de l'aileron avant, entre autres. Alors McLaren fait de l'humour, bah c'est très, ça fait partie du jeu, en disant oui, focalisez-vous là-dessus, c'est ça, pendant que vous pensez à ça, vous ne travaillez pas le reste. Bon, évidemment, c'est totalement faux, ça c'est une guerre des mots, mais ça occupe, c'est très bien, ça fait jaser dans le paddock et en dehors. Mais non, peut-être que McLaren, je dis bien peut-être, va perdre plus que d'autres, parce qu'apparemment, McLaren est plus qu'aux limites du règlement sur ce plan-là. Alors, je ne vais pas te dire là non plus, Marion, que d'un seul coup, la Red Bull va être au niveau de la McLaren. Probablement pas, parce que c'est un ensemble. Et tu sais, c'est la difficulté du règlement actuel de la Formule 1 et des écarts qui sont tellement réduits. Tu le sais bien, hein, maintenant, c'est même plus des dixièmes de seconde, c'est presque des centièmes qui font une différence énorme. Parce que un mot des Ferrari qui sont retapés en course, et formidablement, et tant mieux devant les tifosi, c'est génial. Mais les Ferrari ne sont pas totalement larguées. Elles sont à 4, 5, 6 dixièmes. Pas plus, mais à une époque, t'étais deuxième temps ou t'étais sur la deuxième ligne d'une grille de départ de Formule 1.
Et c'est exactement ce que nous disait Fred Vasseur. Ouais. C'est qu'effectivement, auparavant, avec des écarts aussi faibles, t'étais vraiment dans la course, alors qu'aujourd'hui, avec des écarts aussi larges, malheureusement, tu pars P11 et P12 au début.
Et puis, un autre élément qui va te parler, toi, Marion, c'est qu'à un moment, dans les moments clés de la saison, là, on est quoi? On est à un quart, un tiers de la saison, à peu près, Jean-Luc, entre les deux?
On vient de passer le premier quart, là. Voilà. On sera au tiers au prochain Grand Prix.
Dans les moments clés d'une saison, quand il faut faire la différence, dans la course au titre de champion du monde, tu as un pilote qui a une expérience maximale et qui a une confiance en lui absolue, et en face deux jeunes pilotes qui malgré tout, malgré une bonne saison et une bonne voiture, se cherchent un peu. On a l'impression quand même que Piastri, ça y est, se détache et est le vrai leader chez McLaren, mais est-ce qu'il saura gérer les moments chauds? C'est peut-être ça la question. Qu'est-ce que vous en pensez, non, Marion? Dans les moments clés, il faudra savoir gérer le stress et l'excitation aussi d'un premier titre de champion du monde, tu vois.
Ça, je suis complètement d'accord, mais après l'avantage des McLaren, c'est qu'ils sont deux. Et qui sont deux à être vraiment concurrentiels.
Alors, avantage ou inconvénient, c'est une vraie question aussi, d'ailleurs.
Oui, avantage, inconvénient, mais je pense que McLaren ne va pas forcément continuer à se tirer une balle dans le pied, et que s'il y en a un qui se détache et qui peut gagner le classement des pilotes et être champion du monde en termes de pilotes, je pense qu'il sera favorisé. Après, Verstappen paraît vraiment extrêmement seul chez Red Bull auparavant. Enfin, rappelons-nous quand même du Grand Prix d'Abu Dhabi avec Lewis Hamilton. S'il n'y a pas Checo Pérez qui retient Hamilton pendant des tours et des tours pour pas qu'Hamilton continue à agrandir l'écart par rapport à Max Verstappen, même si ensuite il y a l'incident de la safety car, je ne suis pas sûre que Max Verstappen aurait été capable de faire son retard. Donc à un moment donné, je pense quand même, et là je me tourne vers Jean-Luc qui est beaucoup plus spécialiste que moi, est-ce que d'être autant seul et entre guillemets esselé, c'est un handicap ou pas pour Max Verstappen? Comment tu vois la saison?
Bien sûr, Marion, tu as raison, ça c'est indubitable. Alors, je réponds aussi à la question telle que vous l'avez posée, c'est-à-dire, est-ce que Max Verstappen peut lutter contre les McLaren? Lutter, je réponds oui, c'est pour ça que j'ai répondu oui, parce que lutter, il le fait, il vient de remporter son deuxième Grand Prix, donc il le fait, même tout seul, lui, il lutte. Maintenant, est-ce que l'équipe Red Bull est capable de décrocher le titre constructeur face à l'équipe McLaren?
Alors là, je dis, non.
Évidemment non.
Ah oui.
Est-ce que le pilote Max Verstappen est capable de lutter jusqu'au terme de la saison pour le titre de champion du monde? Et là, je réponds oui, à nouveau. Tu vois, ce sont des questions différentes. Alors, la réponse à ta question concernant...
On rappelle, c'est que c'est Yuki Tsunoda qui est aujourd'hui le coéquipier de Max Verstappen.
Hein. Oui, c'est ça. Et là... Oui. Honnêtement, là, il a fait preuve d'un courage exceptionnel, je dirais à la japonaise. Hein. Le crash monumental prend aux essais, terrible.
Immense.
Bon, ça a de quoi... Tiens, d'ailleurs, si vous me permettez un parallèle rapide, à l'instant, parce que je peux faire au moins deux choses à la fois, tout le monde vous le dira, je suis les qualifications des 500 miles d'Indianapolis, à l'heure actuelle, là, qui se déroule à Indy, ce circuit formidable, ce monument du sport automobile. Bref, et donc, là, il vient d'y avoir un crash absolument épouvantable. Heureusement, le pilote s'en est sorti indemne, hein. C'est un pilote néo-zélandais qui vient d'ailleurs du supercar australien, mais il est depuis 4 ans en IndyCar. Il a tapé le mur à 360 km/h.
Ouais.
Et il s'en est sorti indemne. Heureusement, là aussi, les protections. Et donc, et là, on a déjà eu l'interview. Trois minutes après, il répondait au micro. Bon, voilà. Ces gens-là sont d'une trempe exceptionnelle. Oui, donc, pour en revenir à Tsunoda, je retombe sur mes pattes. Ben, il est en train de progresser. Il est entré dans les points. Il est parti des stands. Il termine dixième. Il a, il fait un très beau Grand Prix, hein, avec les moyens dont il dispose. Il va être là, Tsunoda. Il va être là. Il va être dans les points régulièrement. Alors, pas au niveau de Verstappen, pas au niveau des autres, mais il va apporter sa contribution. Et comme tu le soulignais, Mario, peut-être à un moment pouvoir jouer un rôle primordial, prépondérant, important dans la lutte pour le titre ou pour les titres. Alors, je sais bien que le mettre au niveau, les deux autres sont excellents, hein. Évidemment, Piastri et Norris sont excellents. Mais
Piastri,
moi, je
déjà
sens
quatre
Norris...
victoires en Grand Prix hein, cette saison.
Oui, et Norris c'est ça. Moi, j'avais fait mon choix, tu te rappelles, dès la saison dernière, on en avait parlé. Ouais. Mon choix, c'est Piastri. Parce que lui... Il est froid, c'est un animal à sang froid. Il est incroyablement performant. Quand il décroche une pole, bah ça a été le cas encore là. Bah ok, il répond, mais il est et là il était vert de rage de pas avoir gagné. Et Norris, ça se voit. Tu sais le body language, hein, le regard. Il est cramé, Norris. Même si là, et bah finalement sur la fin, il parvient à passer Piastri. D'ailleurs par parenthèse, ça a frictionné, mais c'est vachement bien hein, que McLaren les laisse se bastonner un petit peu.
Ouais, Piastri qui était en souffrance avec ses pneus. Hein, sur la fin du Grand Prix. D'ailleurs,
absolument.
Hamilton a failli rattraper.
Tout à fait. Ils n'étaient pas sur le même registre. Et tu as beaucoup parlé de stratégie et tu as raison, puisqu'on avait arrêté Oscar dès le 14e tour, parce qu'il était une erreur comme Russell au 12e. Hein. C'était une erreur fondamentale. Après, ils ont tous eu de la chance, parce qu'effectivement, il y a eu d'abord le virtuel safety car, 29-30 tours, et là, tout le monde s'est arrêté. Et puis après, le vrai safety car au 46-47e. Donc, ça a permis de repartir. C'est comme ça que Charles s'est fait piéger aussi, hein, puisque lui, on ne l'a pas arrêté et qu'on a arrêté pratiquement tous les autres. Donc bon,
on a une bonne stratégie pour Tsunoda, c'est juste dans les moments clés d'aller cartonner ou plutôt de sortir de la piste comme ça Piastri, comme ça va aider Verstappen. C'est peut-être ça son meilleur rôle sur la course.
Ah, c'est toujours affreux ça.
Non, je plaisante, ça, je plaisante évidemment.
Non, ça c'est affreux. Non, puis je pense que c'est pas le genre de la maison. C'est un type bien, Tsunoda. Bon, il a été extrêmement brouillon. Il est quand même maintenant dans sa cinquième saison de Formule 1. Il le sait d'ailleurs, c'est sa dernière chance de faire une vraie belle carrière en Formule 1, hein, parce que Honda, c'est désengageant en tout cas de cette écurie-là pour aller se mettre ailleurs. C'est pas sûr que sa carrière se poursuive. On sait qu'il a été aidé à cause.
Oui. On y croit, on est Team Verstappen. Voilà.
Non, on sait qu'il va le faire. Non,
mais en fait, c'est juste qu'elle l'aime pas et qu'elle préfère les Lewis Hamilton.
Mais t'imagines, dans la même heure, il arrive à même pas être capable de compter le score au tennis, alors qu'il fait quand même, il anime une émission avec une fille qui a joué un tout petit peu au tennis. Il est capable de dire dans la même émission, allez Verstappen.
Bah non, oui, allez Verstappen.
Non, mais j'en peux plus. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, mes chers auditeurs, venez me sauver, ce n'est plus possible.
Pas, sinon je dis
ce n'est plus possible. Alors là, t'es viré dans l'instant.
Bon. Marion, je te connais j'appelle bien maintenant. Si tu n'as que des bénis, oui, ça t'intéresse pas.
Voilà, c'est ça.
Bon. Sois franche, réponds-toi à la question.
Un grand merci.
Le premier point, il y en aura 9 autres.
Un grand merci à Jean-Luc qui est venu ce soir. Merci.
C'est toujours
Jean-Luc.
Un plaisir.
La semaine prochaine, un Grand Prix Monaco, un événement sur RMC
bah,
dès 15h dimanche.
Là, on se retrouve forcément pour Monaco. Il y aura des trucs à raconter.
Exactement.
Je ne sais pas quoi, mais il y en aura.
Dans un instant sur RMC, c'est l'After Live. C'est le rugby ce soir à l'honneur.
Oui, La Rochelle contre Montpellier.
La Rochelle-Montpellier, match décisif dans la course au Barin. En top 14 avec Nicolas Villas, Marie.
Bon, merci. Merci Benoît. J'ai envie de te dire quand même, va falloir bosser, Benoît. Je te le dis. Et puis moi, je vous dis pas la semaine prochaine, les amis, parce que malheureusement, je ne serai pas avec vous. Parce que oui, c'est le début de Roland Garros. Mais on se retrouve une fois que Roland Garros est terminé, je vous le promets, pour une fin de saison qui sera extrêmement animée dans Bartoli Time, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche à l'écoute d'RMC. Profitez bien. Et puis, à dans trois semaines, du coup. Au revoir.